dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de...
Huel Lamor.
Qui je suis? Déjà, je suis Huel Lamor. je suis franco-américaine. J'ai 28 ans, je fais de la musique. Je fais beaucoup de choses dans la musique. Je fais de la musique de film, je fais ma musique à moi. J'ai sorti un EP, un album et un autre EP. Je travaille avec d'autres artistes, en prod, en réal. Parfois, je fais des arrangements. J'ai fait beaucoup de direction orchestrale, mais pas dans le classique. Il y a quelques années, maintenant, j'en fais plus trop parce que je suis occupée à faire d'autres choses. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je sais pas. Je fais beaucoup de choses. Je fais de la musique, quoi. Voilà, c'est tout.
Dans les oreilles de...
Une vaste palette de compétences pour Huel Lamor qui fut un temps réduite à son rôle de chef d'orchestre avec l'aventure Orage, premier orchestre de musique actuelle en France. Pourtant, à la même période, la franco-américaine s'illustre auprès d'artistes comme Étienne Dao, Agar Agar ou encore Grand Blanc, compose pour le cinéma et sortira deux EP et un disque Loom. Sur Nova, Huel revient sur les musiques fondatrices, celles des premiers kiffs mais aussi des premiers apprentissages à Los Angeles puis à Boston, au Berklee College. Elle nous embarque en studio, dans sa cuisine ou sur sa moto pendant une heure. Miles Davis croise Puccini et Fontaine D.C. Et pour commencer, un morceau qui condenserait tout, une traduction musicale. Par quelle musique souhaiteriez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Nova?
Je sais pas, une musique qui pourrait me décrire... Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Flying Lotus, Zodiac Shit. Enfin, il y en a d'autres que j'aurais pu choisir, mais je pense qu'il fait partie des artistes au travers de qui je me retrouve dans ce que j'aimerais faire plus tard, quoi. C'est des musiciens qui font plein de choses, qui sont un peu pionniers dans leur domaine d'une manière ou d'une autre. Lui aussi, il a vraiment une patte hyper particulière, enfin, quand on entend tout de suite que c'est Flying Lotus. Et oui, je pense que ça fait partie des artistes qui font partie d'une veine musicale à laquelle je me rattache avec plein d'autres.
Dans les oreilles de
Huel Lamor.
Zodiac Sheet, extrait d'un disque hautement symbolique pour le musicien Flying Lotus, puisque composé alors que sa mère était emportée par la maladie, un disque pensé comme un opéra spatial à cheval entre le 20e et le 21e siècle dans lequel les respirateurs de l'hôpital côtoient la basse de Thundercat. Flying Lotus, créateur, modèle pour notre invité ce matin, la talentueuse musicienne Huel Lamor, qui l'a choisi pour se présenter à nous. Dans quelques instants, retour sur ses premières amours où les Shaolin croisent des phénix.
Dans les oreilles de
Huel Lamor.
Le jazzman américain Bob James sur Radio Nova avec ce titre Nautilus, composé en 1974 et sur lequel on retrouve Idriss Muhammad à la batterie. Nautilus, titre moult fois samplé par les producteurs et autres beatmakers et qui trouvera sa place dans une compilation qui a bercé les premières années de notre invitée ce matin, la musicienne Huel Lamor.
Mon premier souvenir musical le plus lointain qui soit, c'était mes parents qui mettaient un disque en boucle tout le temps. Ça s'appelle Shaolin Soul, c'est une compilation du Wu-Tang, où il y a tous les morceaux de la classique soul, classique R&B qui ont été samplés plus tard dans le rap. Et ça passait vraiment tout le temps chez moi, le volume 1, il y en a 3 à mon souvenir. J'ai appris à connaître cette musique vraiment par cœur, quoi. Enfin, il n'y avait pas de musicien, mais tout le monde était très très mélomane. Et puis, vu que j'avais un père qui était américain et une mère qui était africaine et française, en fait, on écoutait énormément de musique des États-Unis et un peu d'Angleterre. classique rock dans le terme que ça, enfin de ce que ça voulait dire à l'époque. Donc les Allman Brothers, c'est un groupe du sud des États-Unis. On écoutait beaucoup des choses de l'ère un peu psychédélique, Jimi Hendrix et compagnie, enfin tous ceux qui, tous les headlines de Woodstock, ça passait tout le temps à la maison. Puis oui, beaucoup de soul et beaucoup de hip-hop. Avec mon grand frère qui était hyper fan de hip-hop des années, on va dire début 90. Beaucoup de musique africaine et vraiment un tout petit peu de musique française, quoi. Enfin, on avait des classiques, hein. On avait Salif Keita qui passait, on avait un autre musicien du Burkina, je crois qu'il est du Burkina, qui s'appelle Amadou Balaké, on écoutait beaucoup ça. Et puis après, je sais pas, c'était des disques de compil où t'avais, à l'époque où encore, ils faisaient des super compil en disques où t'avais 60 artistes sur un petit CD, t'avais des pépites incroyables.
Nova.
Dans les oreilles de.
Huel Lamor.
Je suis quelqu'un qui a vachement des tocs. Enfin, je suis hyper obsessionnelle avec les morceaux. Et le premier qui a déclenché mon obsession, c'était sur cette fameuse compilation Shaolin Soul volume 1, un morceau qui s'appelle I Hear the Love Chimes de Syl Johnson. Et il y a une mélodie, c'est super beau. C'est hyper, hyper beau, hyper mélodique, très bien écrit. Et j'ai phasé sur ce truc. Je phase encore dessus. I hear the love chimes, and that's a clear sign. You know it must be my time. I've got to make you mine. I just woke up yesterday. J'ai commencé de la musique hyper tôt, j'avais 5 ans, quand j'ai commencé à faire de l'éveil musical.
Éveil musical, et ensuite le premier instrument, c'est le violon.
Ouais, c'était horrible. Mais c'est... Enfin, le premier instrument, c'est... Je pense que c'est une insulte aux gens qui jouent du violon de dire que c'était mon premier instrument. C'est le premier jouet qu'on m'a pris pour que je fasse du bruit dessus, et ça n'a pas duré très longtemps. Après, je suis passée à la guitare.
Tu te souviens des premiers airs que tu as joué à la guitare, enfin, en maîtrisant un peu?
Oui, des trucs hyper chiants, des menuets, des trucs comme ça, parce que je ne sais pas pourquoi, mais à cette époque, on disait que avant de jouer de la guitare électrique, il fallait jouer de la guitare classique, ce qui est complètement absurde. C'est pas du tout le même instrument, donc je me suis retrouvée à jouer des trucs hyper chiants, tellement boring, qui avaient rien à voir avec ce que je voulais faire. Et j'ai dit stop. J'ai commencé à faire des guitares électriques. En guitare électrique, c'était pas des airs, c'était des morceaux que j'ai appris à jouer. C'était des morceaux issus d'un album des Strokes, First Impressions of Earth, que j'avais dit à mon prof que je voulais apprendre à jouer comme Albert Hammond Jr. Et donc on avait pris les morceaux et on les avait ralentis, mais hyper hyper ralenti, parce que c'est vraiment dur ce qu'il fait dans ce disque, et c'était les premiers trucs sur lesquels je me suis cassé les dents.
Nova.
dans les oreilles de
Huel Lamor. Le premier disque que j'ai acheté, c'est une compilation de Bob Marley, avec tous ses plus grands tubes que j'ai achetés très jeune. Je commençais à être de plus en plus intéressée par la musique, enfin du point de vue à l'époque de la guitariste, quoi. Et je me renseignais sur quels étaient les grands noms, les disques qu'il fallait absolument que j'aie. Et il y avait Bob Marley, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, des trucs de Clapton. Et Bob Marley, c'est le premier que j'ai acheté. J'allais très souvent voir des concerts parce que mon frère allait souvent voir des concerts et le meilleur ami de ma mère, qui est comme mon oncle quasiment, allait tout le temps voir des concerts parce qu'il était hyper hyper fan de musique. Donc si ta question c'est quel est le premier concert que j'ai fait, c'était les Rolling Stones au Stade de France. Concert, et puis surtout, enfin, la petite histoire, c'est que ce fameux oncle qui s'appelle Jean-Michel, en fait, il était plus ou moins styliste. Qu'en fait, il connaissait très bien les Rolling Stones, donc on les voyait en loge, tout ça. Il connaît très bien aussi Lenny Kravitz. Ça, c'est le deuxième concert que j'ai fait. Donc, au-delà d'aller à leur concert, je les voyais en dehors du contexte rockstar. Enfin, je pense que aussi j'étais tellement jeune que je me rendais pas compte à quel point ils étaient connus jusqu'à arriver au Stade de France. Ils sont tous là pour rien. Mais après, c'était pas du tout dans. Enfin, je pense que c'était toujours du point de vue de gens qui travaillaient avec eux, en fait. Donc, c'était du point de vue hyper professionnel, taf et tout ça. Puis après, l'avantage, c'est que y avait des places de concert, donc on pouvait y aller et c'était cool, quoi. Donc, je pense que ça a tout de suite, pour moi, assez jeune, démystifié pas mal de trucs. Je pense que le meilleur concert que j'ai fait, c'était Phoenix au Zénith. C'était quand j'étais au... Peut-être j'étais pas encore au lycée, j'étais peut-être en troisième. Et on était allé avec deux, trois copines à moi. Et on était allé voir Phoenix. Et c'était En fait, c'était la première fois que j'allais voir un gros concert d'un musicien que j'avais choisi d'aller voir. Enfin, d'un groupe que j'avais choisi d'aller voir. Et c'était trop bien. C'était à l'époque de Listomania. Ouais, ouais, je pense que c'était plus la sensation d'aller voir en live cet album que je connaissais par-dessus par-dessous et que je voulais vraiment vraiment voir être performé. Puis j'avais tellement économisé pour acheter ces places, donc j'ai savouré. Hein.
Dans les oreilles de
UL, La Mort.
Quel est le disque dont vous pourriez dire que c'est celui que vous avez le plus écouté?
Oui, bah, je dirais que c'est Miles Davis, Sketches of Spain. C'est un truc que j'ai... Ouais. je vais pas rentrer en détail parce qu'on va être là pendant une heure, mais je connais ce truc vraiment par cœur. Et c'est un des disques qui, je pense, m'a le plus marqué. Je l'ai découvert quand je vivais aux États-Unis et que je commençais un peu à découvrir le jazz. Enfin, c'est comme si j'ouvrais une nouvelle porte, quoi, parce que je venais du rock et de l'électro, de l'indie rock. Donc c'était un monde que je connaissais pas du tout. Et j'avais écouté plein de trucs de jazz où franchement j'en pouvais plus au bout d'une minute cinquante. Et après je suis tombée sur Miles Davis et ça m'a vraiment parlé parce que le contexte, c'est que je commençais à apprendre la trompette et je savais pas par où commencer. Et j'ai pris des partitions de Kind of Blue. Et c'était dingue parce que j'arrivais à les jouer plus ou moins alors que j'étais vraiment débutante parce que c'est tellement simple, mais tellement bien écrit. Et ça m'a vraiment marqué en fait, cette hyper simplicité, mais hyper efficace et qui va droit au but. Donc du coup, je me suis intéressée beaucoup plus à sa discographie et c'est devenu l'un de mes musiciens préférés. Et je suis tombée sur toute cette période où il a travaillé avec un arrangeur qui s'appelle Gil Evans. Et ils ont fait deux disques ensemble, si je me trompe pas, Porgy and Bess et Sketches of Spain. Et Sketches of Spain, bah, c'est tout ce que j'aime, c'est le son de Miles Davis. Il y a des arrangements magnifiques avec des cuivres, mais sauce flamenco. Et c'est des classiques du répertoire de la musique classique espagnole aussi. Donc voilà. Ah oui, pour moi, Los Angeles, c'est... En fait, j'avais une bande de potes où c'était assez drôle parce que on venait pas du tout du jazz, mais on s'est tous retrouvés autour de notre obsession pour Miles Davis. C'était hyper drôle, enfin, et on était tous là, ouais, parce qu'en chemin, on trouvait qu'il avait un côté hyper, hyper badass et tout. On aimait trop regarder ses interviews où il est insupportable et horrible, il nous faisait rire, quoi. Mais en même temps, sa musique est hyper cool.
Miles Davis, I listen to Radio Nova every day.
Thank you.
Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de...
Huel Lamor.
Extrait de Sketches of Spain, sublime relecture jazz du concerto des Aranjuez de Rodrigo par le trompettiste Miles Davis. Le jazzman agit comme une révélation pour la compositrice, arrangeuse et chef d'orchestre Huel Lamor lorsqu'elle étudie la musique aux États-Unis. C'est sur le continent américain qu'on la retrouve, à Los Angeles puis à Boston dans quelques minutes. Avec elle, on parle composition, on parle musique de film et même dernier coup de cœur.
Found a cure for loneliness, I'm forever immune. Stuck in my walking in my head and a hump or two. If she got rhythm, it's right. Some things don't need words. You know you're living when it all becomes a blur. Can't be explained, and it ain't no reason to. Something strange just takes over you. 1 million lovers to choose from, but none like her, the only one for sure. 1 million lovers to choose from, but none like her, the only one for sure. Can't explain, but it's almost hard to recognize myself. Slowly I've changed, turned into someone else. I find myself doing things I'd never do, dreaming of her the whole day through. Can't explain, there is no need. There's no one else who's been inside of me. Can't be explained, and there ain't no reason to. Something strange just takes over you. 1 million lovers to choose from, but none like her. Thank you.
dans les oreilles. Dans les oreilles de
Huel Lamor.
Un peu de garage rock sur Nova avec One Million Lovers, extrait du troisième album de The Growlers sorti en 2013. La scène indé côtoie les géants de la note bleue dans le cœur de la musicienne franco-américaine Huel Lamor, qui, avant de nous parler composition, vision musicale également, revient sur ses années de formation américaine.
Et ouais, on écoutait Miles Davis, et en même temps on allait à des concerts de musique psychédélique, de la scène indé à cette époque-là était super cool.
C'était qui ?
Dans la scène indé, y avait un groupe qui tournait beaucoup qui s'appelait Cherry Glazer, il y avait un autre groupe qui s'appelait les Buttertones qui était au début, c'était l'époque des Growlers aussi, c'était vraiment, ils étaient à leur pic. Et puis aussi Warpaint à cette époque-là, enfin on pouvait les croiser quoi, les meufs, c'était pas encore devenu, elles étaient hyper connues en Californie, mais c'était encore les méga méga superstars qu'elles sont aujourd'hui.
Los Angeles, vous apprenez quoi là en musique ?
Bah en gros, j'apprends à être une guitariste professionnelle, donc à partir en tournée avec des gros artistes, à devenir un peu une machine quoi. Mes compagnons de classe, ils ont fini par tourner avec des gens je sais pas, tout le monde, CeeLo Green, Beyoncé, des trucs comme ça, travailler sur les late night shows. Enfin ici, on a l'impression que c'est des trucs énormes, mais là-bas, ça fait un peu partie du business quoi. C'est comme si t'es batteur professionnel en France, je pense qu'il y a un moment où tu vas finir par travailler avec, Clara Luciani ou Biolay ou un truc comme ça, quoi. Et c'est un peu pareil là-bas.
Et donc à Boston, vous écoutez quoi à ce moment-là ? Vous apprenez d'autres choses en fait à
Oui,
Berkeley.
J'apprends d'autres choses parce que j'en peux plus jouer de la guitare. En fait, je jouais de la guitare depuis hyper longtemps et je sais pas, j'étais un peu perdue dans ce que je voulais faire, je pense. J'arrivais pas encore à trouver vraiment la clé pour savoir ce que je voulais faire. Et du coup, je commence à étudier la musique classique parce que comme pour le jazz, je me dis je vais apprendre des trucs que je connais pas. Et ça a été le cas. Et après, par contre, en termes de ce que j'écoutais, je pense que ça a été la période où j'ai écouté plein de trucs bizarres. Je sais pas, de la musique expérimentale, mais fait avec des machines modulaires, avec un logiciel qui s'appelle Massive, qui fait des générations aléatoires. De la musique classique contemporaine, parce que via ma spécialité, j'ai été amenée à écouter ça. Genre Schoenberg, comme ça. Après, les trucs avec Massive, je pourrais pas te dire, c'est... Je pense que c'est tellement obscur que même YouTube sait pas où c'est. C'était un peu ma période truc chelou, entre guillemets. Même si c'est pas de la musique que j'apprécie, ça ouvre mon esprit sur plein de choses en fait qui sont possibles, qui ont été faites. J'étais à fond dans les compositeurs tchèques. J'adorais un compositeur qui s'appelle Smetana, qui a écrit la Moldo, qui est un méga tube de la musique classique. J'adorais les compositeurs russes, Stravinsky, surtout Tchaïkovski, et super fan de Puccini. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais à peu près tout le monde a en tête un air d'un aria de Puccini à travers une pub pour les pâtes ou un truc comme ça. Et puis vu que j'ai un peu étudié en profondeur son travail, il était complètement névrotique et névrosé dans ses histoires. C'est toujours des héroïnes qui doivent mourir. Il ne veut pas laisser les femmes en vie, c'est pas possible. Donc c'est un peu drôle de voir comment il va réussir à les tuer alors qu'il n'y a rien pour les tuer dans son truc.
Thank you.
dans les oreilles de
Huel Lamort. Mais en parallèle, j'écoutais vachement, j'écoutais beaucoup de pop à cette époque-là. Genre, je faisais les deux. J'écoutais des trucs un peu niche, enfin très niche, et des trucs super, super, super pop. J'écoutais Adèle tout le temps. C'est une autre obsession. Ça devait être 20... pas le premier, le deuxième. Le premier, c'est 19 ou un truc comme ça, 20 quelque chose. Et il était sorti quand j'étais là-bas, et je me souviens d'avoir attendu devant mon ordinateur l'heure de sortie. Je dire, ah, j'avais mis des bougies. Enfin, j'étais complètement toqué.
Qu'est-ce que vous considérez comme vos débuts ? C'est les moments où vous dirigez, où vous montez à l'orchestre ?
Non, ça c'est les moments où j'avais besoin de travailler et vu que je savais faire de la direction orchestrale, bah c'était, je peux pas dire que c'était facile, mais c'était pas très compliqué de trouver des trucs à faire. Je pense que mes débuts, c'est quand j'ai vraiment recommencé à écrire de la musique pour moi, parce que j'écrivais beaucoup de musique, j'avais eu des groupes de rock et tout ça avant de partir étudier aux États-Unis, puis après j'avais fait un peu un cut pour étudier à fond, pour devenir un peu un ermite. Après 2 ans d'être rentrée en France, c'est quand j'ai commencé à faire ma musique, que j'ai sorti mon premier EP qui s'appelait Trax, après que j'ai été contactée pour faire des musiques de films, et puis après que j'ai eu une signature en maison de disques, et patati et patata et pataquès, là ça a vraiment été le début pour moi.
Et en parlant de musique de film, est-ce qu'il y a un compositeur dont vous aimez particulièrement la manière dont il compose pour l'image ?
Une compositrice, Mika Levy. Bah, je pense que Mika Levy, elle a plié le game avec Under the Skin. Enfin, elle a fait une révolution dans les BO avec ça. Et puis, je sais pas, je me retrouve... je parle d'exemple, mais Mika Levy, pour moi, c'est un bon exemple. Enfin, c'est une meuf qui est complètement ovni. Son studio, je sais pas si on peut appeler ça un studio, c'est une grande table avec un PC. Elle a ses projets parallèles, Mikachu, où c'est carrément de la noise. Et à côté, elle fait des BO genre Under the Skin et elle gagne l'Oscar de la meilleure BO avec Jackie, qui est aussi une BO incroyable. Et ouais, c'est, pour moi, c'est la boss.
Les oreilles de
Huel Lamort. Plus qu'un disque, c'est des, c'est quand on parlait de Flying Lotus au tout début, c'est plus des artistes quand j'ai commencé à les découvrir à ce moment-là où justement je savais pas trop ce que je voulais faire. Je peux citer Fortet, Floating Point, Ryuichi Sakamoto. Tout le travail de Johnny Greenwood en tant que Johnny Greenwood, pas son travail dans Radiohead, mais quand il a fait sa musique et qu'il a été, il a fait de la musique de film. Et aussi, bah, j'ai commencé à vachement plus m'intéresser à tout ce que Damon Albarn avait fait, au travers de Gorillaz et de tous ses autres projets. Enfin, ouais, en fait, je pense que c'est des musiciens où je me suis rendu compte qu'ils ont exploré plein de styles différents. À chaque fois, ils ont essayé d'aller à fond dans un truc. Floating Point, c'est un bon exemple. Il a fait tellement de choses différentes. Il a été tout seul, il a été avec un groupe, il a été avec un orchestre, il a fait une collab avec des solistes. Et ouais, je me suis dit, c'est dans cette direction-là qu'il faut que je regarde, quoi. C'est des exemples à suivre.
Thank you.
les oreilles. Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de...
Huel la mort.
Johnny Greenwood, Damon Albarn, Ryushi Sakamoto et Floating Points, dont on écoutait à l'instant un extrait des silhouettes d'ouverture de son disque Elenia, paru en 2015. Autant de noms, autant de marqueurs, de repères pour la compositrice, arrangeuse aussi à l'aise en solo dans son studio qu'à la direction d'un orchestre, Huel la mort. Est-ce que d'ailleurs votre manière de composer change selon la casquette que vous portez?
Non, pas du tout. Enfin, j'ai mes habitudes, pour revenir sur le fait que j'ai des tocs. Il faut vraiment qu'à mon studio, les trucs soient à leur place, là où ils sont censés être. Il faut que j'arrive à la même heure tous les jours, sinon ça me fait un truc. Si j'arrive pas à la bonne heure, je suis complètement bloquée, c'est pas possible. Mais après, oui, c'est différent. Quand je fais, par exemple, de la musique à l'image, c'est assez autoroute, quoi. Je sais ce qu'il faut que je fasse, dans quel ordre il faut que je le fasse, j'ai une idée en tête, ça a été validé, tatati, on le fait. Quand je fais ma musique à moi, c'est un peu plus compliqué. Parfois, je suis bloquée sur un truc et il faut que j'aille prendre l'air, que j'aille voir des potes, que j'aille au cinéma... qu'un peu je me débloque la tête, après je retourne, je travaille et ça va mieux. Donc ouais, ça dépend du processus.
Et quand vous êtes avec l'orchestre, ça c'est encore différent?
Quand je suis avec l'orchestre, l'orchestre c'est que avec les BO de musique de film quand il faut enregistrer, hein, c'est tout. J'en fais encore un peu avec le LCO à Londres, où c'est encore quelque chose d'autre. Mais ce que j'ai fait avec Orchestral, ça m'a plu parce que c'était un challenge et c'était... on s'est bien marré quand même. Mais après... j'ai un peu ressenti au fil du temps, exclusivement en France, un peu de frustration par rapport à ça parce que j'ai fait de la direction orchestrale et que je suis une femme et que wow, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on m'en parle absolument tout le temps et qu'on réduit un peu tout ce que je fais à ça. Alors qu'au final, c'est juste un sixième de ce que je fais. Hein. Maintenant, la direction orchestrale, j'en fais... comme j'ai dit, j'en fais avec le LCO, mais j'y vais une fois par mois, une fois tous les deux mois pour faire une session pour un truc hyper spécifique. Ou alors, on me demande de faire des arrangements de cordes et je le fais parce que j'ai du temps et que ça me fait plaisir et que c'est des projets cool. De la musique pour moi, je travaille avec d'autres artistes, on fait des disques, on écrit à deux mains, et je fais de la musique de film, mais ouais.
Et avec qui vous travaillez là en ce moment?
Là, je viens de finir un disque avec un musicien qui s'appelle Théo Crocker. On a enregistré vendredi et samedi. Il est reparti à New York. Et puis là, j'ai en février un gros truc avec un... je peux pas trop en parler, mais on va dire que c'est un batteur très connu anglais. Donc ça arrive. Ça va être super. Et puis après, on verra ce qui se passe l'année prochaine.
Nova. Dans les oreilles de...
Huel la mort.
Et qu'est-ce que vous avez dans les oreilles au moment où vous avez fait Multiply?
Fontaines ici, leur dernier album. Grave, ça m'a plié la tête le disque. J'ai trouvé que c'était C'était juste trop stylé, dans tous les sens du terme. Obsession totale.
Talk about it later, you can read it in the paper. I hated you away from the very start. I seen you stick and see your smile, it's gone and broken my heart. Now the wind is making work of every step on the bridge. You say I used to say we found each other, now I don't know.
Fontaines d'ici, tout leur disque. Daft Punk Discovery aussi, j'ai vachement écouté. Parce que ce qui m'intéressait vachement dans cet album, c'était que c'était hyper... comment dire, c'est pas super électro, en fait. Les sons sont hyper analogiques, c'est des vraies batteries, bien sûr, il y a des effets, etc. Mais le son est hyper brut, et j'avais trouvé ça hyper intéressant. J'ai vraiment fait une fixette là-dessus. Mais ouais, l'album de Fontaines d'ici... la prod, le mix, il y a un instrument qui tient vraiment tout le truc, c'est une guitare baryton, c'est une Fender B6 qu'on entend vraiment quand on sait ce que c'est, et ça apporte toute la patte au truc et c'est trop bien. Et puis cette espèce d'énergie entre le punk, l'indé, je peux en parler pendant très longtemps. J'adore écouter de la musique quand je fais à manger. J'adore faire à manger. C'est mon moment un peu relaxation où je deviens une espèce de moine avec mes couteaux. Et je mets un truc que j'adore. Quand je fais à manger, j'aime beaucoup écouter la BO d'un jeu vidéo, en parlant de ça, qui s'appelle, un jeu vidéo qui s'appelle Sable, qui a été fait par une artiste qui s'appelle Japanese Breakfast. C'est un bon exemple d'ailleurs de compositrice qui fait pas de la musique de jeux vidéo à la base et qui a fini par en faire. J'aime beaucoup écouter le disque de Floating Point, c'est Pharoah Sanders aussi. J'adore. J'adore écouter de la... Oh, je devrais pas dire ça parce que c'est pas légal. J'adore écouter de la musique en faisant de la moto. Très fort. J'ai jamais eu d'accident. Je respecte la limite de vitesse. Je sais pas, ça m'inspire à conduire. Dans le confort de mon studio, c'est quand même le mieux, quoi. Mes super enceintes.
I'm ugly. I'm up and down right now, I'm down and bloody. But I don't feel as though I've been unlucky. I have people in my life that really love me.
J'ai acheté la semaine dernière le premier album de Oliver Sim, que je trouve qui est hyper bien. Enfin. Je crois que c'est Jamie XX qui a fait toutes les prods d'ailleurs, donc c'est hyper cool. J'écoute ça, j'ai eu le test pressing de mon disque à venir avec Théo Crocker, donc je l'écoute aussi. Je parlais de Sable, de la BO de Sable, je l'écoute aussi, je l'ai écouté hier soir, quoi. En fait, je crois que je parle essentiellement de choses qui sont dans l'instant présent.
Sur un tout.
Ouais. Pardon, j'écoute beaucoup Men I Trust. C'est un groupe américain, ils sont quatre, une chanteuse extraordinaire et j'adore. J'adorerais les voir en live à Paris, je sais pas quand est-ce que ça va se faire. Je pense que, je dirais pas que c'est quelque chose qui m'a surpris, mais je pense que quelque chose que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup plus de porosité dans les genres musicaux. Enfin, ça, et qu'il y a des nouveaux genres qui sont en train d'émerger, je pense. Enfin, il y a des nouveaux styles de musique où je pense qu'on n'a pas encore un nom pour ça aujourd'hui, mais ça va vraiment devenir un son de cette époque. Par exemple, on parle de Fontaines D.C., leur dernier disque, je ne saurais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Enfin, il y a un côté très rock, très alternatif, certes, mais c'est encore un autre truc. Et je trouve qu'il y a plein d'influences qui sont en train de passer dans plein de styles différents. Donc, je pense que c'est une époque très intéressante à vivre. Quoi. Enfin, il y a plein de genres musicaux qui étaient hyper hermétiques avant. Par exemple, tout ce qui a à voir avec le hip-hop et le rap, où c'était vraiment un truc, enfin quasiment une secte, quoi, sur fin 90, début 2000. Alors que maintenant, c'est des artistes qui sont ouverts sur plein de trucs, qui font des collabs avec plein d'artistes différents en France ou dans d'autres pays. L'électro, c'est mélangé à plein de trucs. La musique de film, elle est faite par des gens qui font pas de la musique de film à la base. Donc, je pense que c'est hyper positif.
Dans les oreilles de
UL La Mort.
Et dernière question, c'est quoi la musique pour vous? Qu'est-ce que ça représente?
C'est une question intense. J'ai l'impression de passer le bac de philo. Je pense que c'est plein de choses, mais je crois que j'ai une relation un peu particulière avec la musique parce que j'en fais depuis très longtemps. Et pour moi, c'est quasiment... je vois ni ça comme une passion, ni comme un hobby, ni comme un travail. En fait, j'ai l'impression que la musique, c'est quasiment devenu quelqu'un qui vit avec moi, en fait. Enfin, je vais sembler très folle à dire ça, mais c'est un peu devenu une personne qui partage ma vie, en fait. C'est comme ça que je vois la musique. C'est une entité et c'est une relation fusionnelle qui parfois peut être super, parfois chiante. C'est comme être marié depuis très longtemps à quelqu'un, quoi.
Merci.
Ouais.
Nous étions trois, UL, la musique et Radio Nova. J'espère que cette virée dans les oreilles de la compositrice vous aura donné envie d'agrandir votre discothèque. Pour nos auditeurs franciliens, sachez qu'elle se produira vendredi prochain, le 3 février, au Centre des Arts d'Anguin. Merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission, émission qui, je vous le rappelle, est disponible dès maintenant en version augmentée, stérique. Plus de musique, plus d'histoire autour de la musique en podcast sur nova.fr et sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à rejoindre le rang des abonnés, ça nous fera plaisir. Et quant à moi, vous le savez, eh bien je vous donne rendez-vous dans quelques minutes côté Grand Mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles de et sa playlist sur nova.fr.